Nous ne savions que faire. De chaque côté du pont volaient les âmes des morts. Nous n'osions ni bouger, ni parler. Je reconnus alors une voix dans le tumulte des gémissements. Mon fils, comment as-tu pu venir vivant dans ces ténèbres de brume? N'as-tu pas encore trouvé le chemin d'Ithaque, de ta demeure et de ton trône? C'était l'âme de ma mère qui passait au-dessus de ma tête. Il me fallait interroger l'âme du devin Tirésias. Depuis 20 ans, je n'ai pas foulé notre sol. J'erre sur l'océan, accablé de malheur depuis le jour où j'ai suivi à Troie le valeureux Agamemnon. Mais toi, parle-moi. Comment la mort t'a-t-elle dompté? Que peux-tu me dire de mon père, de mon pays, de mon épouse? Garde-t-elle mes richesses? Quelque noble Achéen l'a-t-il déjà épousée? Ma mère resta un long instant silencieuse, les larmes brillaient dans ses yeux. Pénélope se lamente jour et nuit dans son palais. Une troupe de prétendants envahit ta demeure et la pousse à reprendre un époux, mais elle espère en ton retour. Mon regard fut alors attiré par les flots. J'y voyais Pénélope, occupée à tisser mon linceul, jour après jour, et à le défaire, nuit après nuit. Pressée de reprendre un époux par les seigneurs d'Ithaque, elle retardait ainsi le moment des noces. Ton père, lui, vit au champ. Il ne vient plus à la ville. Il n'a ni lit, ni manteau, ni couverture. L'hiver, il dort comme ses serviteurs dans les cendres près du foyer et se couvre de haillons. Quand vient l'été, il se fait dans ses vignes un lit de feuilles et s'y couche tristement. Il désespère de voir ton retour. Quant à moi, c'est le regret, le chagrin de ton absence et le souvenir de ta douceur qui m'ont ôté la vie. Je voulus la serrer dans mes bras, mais elle s'envola entre mes mains comme une ombre ou comme un songe. Notre navire s'éloignait déjà. J'agitai mes mains pour la saluer une dernière fois. Les autres âmes s'avançaient tour à tour pour nous dire leur douleur. Je vis Tantale, debout dans un lac dont l'eau lui touchait le menton. Il avait soif et ne pouvait boire. Il avait faim et ne pouvait manger. Chaque fois qu'il se penchait, l'eau disparaissait comme avalé par une terre noire. Au-dessus de sa tête, de hauts arbres laissaient pendre leurs fruits. C'étaient des poires, des grenades, des pommes splendides. Quand le vieillard tendait les mains pour les cueillir, le vent soulevait les branches jusqu'aux sombres nuages. Je vis Sisyphe pousser un énorme rocher vers la cime d'une montagne. Lorsqu'il atteignait le sommet, les forces lui manquaient et la roche retombait. Lui, tendant ses muscles, recommençait sans cesse. La sueur ruisselait sur ses membres, des nuages de poussière entouraient sa tête. Je vis aussi le terrible Hercule, le héros aux 12 travaux. Autour de lui, les morts faisaient vacarme comme des oiseaux et fuyaient effrayés de tous côtés. Lui tenait son arc nu, un trait sur la corde et jetait partout des regards menaçants, faisant sans cesse mine de tirer. Notre navire avançait. Nous regardions autour de nous, espérant voir quelques-uns des héros d'autrefois, Thésée, Achille ou Minos, l'illustre fils de Zeus. Mais l'innombrable peuple des morts s'assemblait et poussait des cris terribles. La verte peur nous saisit. Nous craignions qu'Hadès envoie sur nous l'un des gardiens de son royaume, le chien Cerbère ou l'horrible Gorgone. Une nouvelle fois, je suppliais mes compagnons d'agiter leur rame en toute hâte.